France Inter. Considérée comme la grande historienne du féminisme en Occident, l'essayiste, professeure et chercheuse Michèle Perrot s'est d'abord intéressée au laisser-pour-compte dans un sens plus large, comme les ouvriers, les prostituées ou les prisonniers. L'auteur de « Jeunesse à la grève »,« Les femmes ou le silence de l'histoire »,« La mélancolie ouvrière »,« Le temps des féminismes » ou « S'engager en historienne » a co-dirigé avec Georges Duby les 5 volumes de la magistrale « Histoire des femmes en Occident ». Elle se raconte dans le documentaire télévisé Michèle Perrot dans l'intimité des chambres de Terry Vendamiche, disponible sur France.tv jusqu'au 7 septembre prochain. Dedans, l'historienne engagée retrace son parcours en visitant la maison de George Sand, à laquelle l'un de ses ouvrages fut consacré. Icône de toute une génération de féministes, l'éternelle curieuse continue de poser son regard clair sur l'époque avec tendresse et lucidité. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Michèle Perrot.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
La dernière chose qui m'a enthousiasmé, c'est tout simplement ce matin, il faisait beau. Et c'était agréable de voir Paris, pas trop chaud encore.
Vous vous réjouissez aisément?
Oui. Les deux.
C'est quoi l'autre?
L'autre, je suis triste aussi, aisément.
Et vous sortez de la mélancolie facilement quand elle vous attrape?
Oui.
Vous avez un tempérament dynamique quand elle pointe son nez ou vous vous laissez faire?
Non, je ne me laisse pas trop faire. J'ai été habituée à ne pas me laisser faire.
Vous êtes fille unique, vous avez été élevée comme un garçon par un père qu'on qualifierait aujourd'hui de féministe, mais vous dites que ce terme l'aurait agacé.
Beaucoup, parce qu'il détestait de toute façon tous les mots en isme. Voilà. C'est un homme qui avait fait la guerre 14-18, il en avait vu beaucoup, il était au fond un peu anard, voilà. Mais pas un anard engagé, c'était quelqu'un qui était très moqueur, par ailleurs. Donc, pas d'idées reçues, surtout pas de grands mots, mais des attitudes assez remarquables. Naturellement, je ne l'ai réalisé qu'après, forcément.
Il estimait que vous ne faisiez pas assez de sport, il vous a poussé à passer votre permis, et en fait, il vous a plus influencé que votre mère, qui, elle, voulait que vous obéissiez au canon de la féminité.
Oui. Il ne faudrait pas non plus que je dise trop ça de ma mère, parce que c'était une femme elle-même très libre, et qui a fait beaucoup de choses, qui a beaucoup travaillé, mais elle avait quand même ce souci-là. Et comme elle voyait que j'avais plutôt des options intellectuelles poussées par mon père, elle voulait un petit peu garder l'autre côté. Oh, ma petite fille, il ne faut quand même pas que... Et surtout, elle avait été élève du lycée Fénelon.
Un
des premiers lycées ouverts aux filles, en effet, parce qu'elle avait un père, ingénieur de la ville de Paris, républicain, vraiment tout à fait typique, et il l'avait mis au lycée Fénelon. Et elle avait bien aimé, beaucoup. Mais elle trouvait que ses professeurs étaient un peu austères. Voilà. Alors elle avait peur que je sois comme ça.
Et vous, en histoire à la Sorbonne, vous étiez environ 30% d'étudiantes. Et je crois que ça vous amusait beaucoup parce que parfois vos professeurs vous appelaient messieurs.
Bien sûr. Ils nous appelaient messieurs, absolument.
Mais alors ce qui est amusant, Michèle Perrot, c'est que quand on regarde votre parcours, en fait, vous avez plutôt pris modèle sur des hommes, sur ce grand-père que vous venez d'évoquer, sur votre père.
Comment ne pas faire cela dans un monde qui est encore très dominé par les hommes, où les chemins des femmes sont encore mesurés? Donc, faire ce que font les hommes, avoir les mêmes droits que les hommes, c'est quand même l'égalité, la liberté. Et même si, à ce moment-là, je théorisais pas du tout tout ça, j'étais attirée par ça. Oui, véritablement. Et je trouvais que c'était épatant, comme on disait à l'époque, d'avoir un père qui m'y poussait. J'avais cette chance, il fallait en profiter.
Vous dites, d'ailleurs vous avez toujours dit avoir eu beaucoup de chance avec les hommes de votre entourage, et la conscience de classe est venue bien avant votre conscience de l'inégalité homme-femme.
Bien sûr, oui, tout à fait, tout à fait. J'étais pas consciente de cette inégalité-là. Je pensais que, après tout, avec un petit peu d'énergie, on pouvait y arriver, il y avait une part de responsabilité, etc. Et oui, c'était pas un problème qui me concernait. D'autre part, j'avais des amies femmes. Hein. On était une petite minorité à avancer dans les voies universitaires et autres. Et donc, on s'encourageait. C'était plutôt marrant. Hein. On était une minorité. Et alors, vous savez, il y a une grande différence entre être minoritaire et plus égal. Je veux dire par là, quand il y a peu de femmes, à cette époque-là, elles étaient plutôt pas mal reçu. Après tout, ça changeait, c'était bien. Là où ça devient plus difficile pour les femmes, c'est quand c'est 50-50. Hein. À ce moment-là, les hommes peuvent ressentir ça comme une concurrence. Et on observe que c'est à ce moment-là que c'est peut-être le plus difficile pour les femmes.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Bien des chemins mènent à la chambre. Le sommeil, la méditation, Dieu, l'amour, le sexe, la lecture, la réclusion, de l'accouchement à l'agonie, elle est le théâtre de l'existence, là où le corps dévêtu, nu, là, désirant, s'abandonne. On y passe près de la moitié de sa vie la plus charnelle, celle de l'insomnie, du rêve. Fenêtre sur l'inconscient, sinon sur l'au-delà.
Michel Perrault, on entend un extrait du documentaire diffusé le 22 juin dernier sur France 5. Michel Perrault dans l'intimité des chambres de la réalisatrice franco-américaine Terry Vendamich, que vous avez rencontrée en 2008 lors du tournage de son documentaire sur l'ethnologue Françoise Héritier, dont vous étiez toutes les deux très proches. Et le titre de ce documentaire qui vous est consacré est tiré de votre ouvrage de 2009 « Histoire de chambre » dont vous lisez un extrait. Et l'idée du documentaire s'inspire de votre essai « Georges Sand à Nohant, une maison d'artistes », puisque c'est justement là-bas qu'il a été tourné. George Sand, c'est votre première héroïne, mais vous trouviez ses romans à l'eau de rose.
C'est pas ma première héroïne. Et en effet, j'aimais pas tellement ses romans. Mais il se trouve que j'ai épousé un Berrichon.
Vous dites personne n'est parfait dans le documentaire
personne
à ce moment-là.
Et nous nous promenions beaucoup autour de la ville de Châteauroux. Et Nohant n'est pas loin de Châteauroux. Par conséquent, et j'ai eu la chance formidable de rencontrer la petite fille de Georges Sand, et elle était très âgée, elle allait mourir d'ailleurs l'année suivante ou quelque chose comme ça, et la rencontrer, faire la visite de cette maison où personne n'allait à ce moment-là avec la petite fille de Georges Sand, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et bien entendu, à ce moment-là, je me suis intéressé aux écrits de Georges Sand, mais surtout à ses écrits, on peut dire, de littérature personnelle, c'est-à-dire son immense correspondance, dont 26 volumes ont été publiés et qui est un documentaire, un document formidable sur le 19e siècle, Histoire de ma vie, qu'elle a publié dans les années 1850 et qui est une des rares autobiographies de femmes à cette époque-là. Autrement dit, ces écrits-là, outre des agendas, parce qu'elle tenait beaucoup de notes sur ce qu'elle faisait tous les jours, par exemple, elle va en Italie, qu'est-ce qu'elle voit, comment elle vit les choses, etc. Donc, il y avait là un formidable témoignage sur le 19e. Or, c'est quand même mon siècle favori.
Oh, je vous comprends. Alors, elle avait une grande conscience sociale. Elle était, par exemple, gênée d'être servie par ses domestiques. Mais alors, pourquoi les gardait-elle ?
Parce que ça se fait à ce moment-là. Et parce que il n'est pas concevable de gérer une maison comme Nohant, qui est une grande maison, hein, sans un personnel. Hein. Par conséquent, ça la gênait pas tellement. Mais ce qui la gênait, c'était le type de relation un peu servile que ça introduisait. Et elle disait, mais ces gens devraient être tout simplement des professionnels. Hein, ce qui est l'idée, évidemment, moderne du travail domestique.
Alors elle est à la fois Georges Sand d'une grande modernité puisqu'elle se sépare de son mari qu'elle trouve très ennuyeux et elle arrive à récupérer la maison en lui faisant un procès, ce qui était rare à l'époque. Oui. Et elle s'oppose tout de même en 48 au vote des femmes.
Elle est contradictoire, Georges Sand. Elle est contradictoire comme tout le monde, dans le fond. Elle était pour les droits civils des femmes. Pour elle, c'était l'essentiel. Avoir l'égalité civile avec le mari, le père, etc. Hein. Le droit au divorce, bien sûr, qu'elle a pratiqué. La gestion de ses biens, voilà. Et les droits politiques, ça viendrait après. Hein. Quand les femmes auraient vraiment vécu librement dans leur famille, alors là, elles ne dépendraient de personne et elles seraient votante, citoyenne, etc. Elle était pour, évidemment.
Donc c'est plutôt stratégique.
C'était stratégique.
Alors, vous relisez dans ce documentaire, Michel Perrault, votre livre Histoire de chambre en marchant. Dans le film, j'imagine que ça n'a pas été facile de lire en marchant dans toute la maison.
Pas du tout. Ça n'a pas été facile du tout. Je me suis toujours demandé pourquoi Thierry, mon ami, Thierry Damiche, que je salue, m'avait fait faire ça. Je ne suis pas tombée, c'est déjà l'essentiel.
Est-ce que votre livre était à votre goût en le relisant ?
Jamais, jamais.
C'est
jamais.
Vrai ?
Mes livres ne sont jamais à mon goût quand je les relis. Et je me dis toujours que j'aurais dû dire ça, faire ça, ne pas écrire ça. Voilà, non, non. On n'est jamais très content de ce qu'on fait. Même si on est content de l'avoir fait aussi.
À quoi ressemble votre chambre ?
Très simple. Elle n'est pas très grande. Il y a un lit, une commode, que j'ai d'ailleurs depuis fort longtemps. Mes parents m'avaient donné ça. Un fauteuil et c'est tout.
Des livres ?
Des livres, oui. Parce que de toute façon, les livres, c'est l'invasion depuis fort longtemps. Donc, dès qu'il y a une petite anfractuosité quelque part, des planches, des livres.
Alors, petite, vous avez vécu à Paris, à Montmorency. À quoi ressemblait votre chambre d'enfant la plus marquante ?
Oh, c'était ma chambre de la rue Grenetta. J'habitais dans le quartier des Halles, quartier que j'ai adoré.
Votre père vendait du cuir ?
Mon père était marchand de cuir, rue Saint-Denis. Et c'était un quartier qui est toujours populaire, mais enfin maintenant il est devenu plus touristique. Mais à cette époque-là, il y avait les Halles. Hein. C'était très dense, beaucoup de monde. Et il y avait une ambiance formidable. Par exemple, il y avait des chanteurs de rue. Hein. Et ça, c'était épatant. Hein. J'ai beaucoup aimé ce quartier-là. Oh, ma chambre, pas particulière. J'y vivais pas dans ma chambre. Je vivais dans l'appartement. Hein. De même, à Montmorency, je n'ai pas vécu dans ma chambre. D'une certaine manière, j'ai écrit sur les chambres, alors que mes chambres de jeunesse, tout au moins, n'ont pas eu tellement d'importance.
Dans ce quartier, il y avait aussi des prostituées, mais vous n'en aviez pas conscience, jusqu'à vos 16 ans, où l'une d'elles vous a demandé si vous étiez nouvelle.
Oui, elle m'a dit gentiment, alors t'es nouvelle ?
Comment vous avez réagi ?
J'attendais ma mère, justement. Bon, j'ai regardé d'un air un peu étonné, puis j'ai raconté ça à ma mère qui arrivait, et ma mère m'a évidemment expliqué. Elle m'a dit, t'inquiète pas.
Alors, vous faites votre scolarité au cours Bossuet, chez les religieuses, et en 40, avec le début de la guerre, votre famille fuit vers la frontière espagnole, avant de retourner à Montmorency. Et là, votre maison est occupée par les Allemands, et ce qui est très étonnant, c'est que c'est votre mère qui se charge de la récupérer.
Bien sûr, parce que ma mère connaissait le caractère colérique de mon père, et elle avait très peur qu'arrivant dans cette maison occupée, ils ne fileraient pas doux, ils leur diraient, voilà. Alors ma mère a proposé tout de suite d'y aller, et j'y suis allé avec elle. Hein. Elle n'était pas toute seule, il ne fallait pas qu'elle soit toute seule, donc nous y sommes allés toutes les deux.
Et quels souvenirs vous gardez de ça ? Vous avez eu peur ? Vous aviez conscience de ce qui se passait ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, j'avais tout à fait conscience. C'était très impressionnant. Ils étaient quand même assez nombreux dans cette maison, qui était une grande maison, très grande maison. Et arrivé là, dans cette maison où j'avais évidemment tous mes des tas de souvenirs, voir ces hommes... Alors, c'était l'époque où les Allemands étaient, comme on disait, corrects. Ils avaient des consignes à cet égard. Donc, ils nous ont accueillis. Et ma mère a dit, mais vous savez, c'est ma maison, je voudrais... Ah, ils lui ont dit, madame, nous... Il y avait un qui parlait très très bien français. Il faut aller à la commandante Tour. Hein. Nous, on peut rien ici. On peut rien, on est là. Et il a fallu faire des démarches qui ont duré presque 3 mois hein, pour récupérer la maison, ce qui s'est fait quand même. Mais on a toujours eu ce sentiment que la maison avait été traversée par cette occupation et que peut-être on était surveillé, mais peut-être pas. Peut-être que c'est une idée qu'on se faisait comme ça. Mais il y avait quelque chose qui avait changé.
Et ça suffit pour avoir peur, surtout que les religieuses à votre école avaient changé aussi en 40 et avaient d'un coup un discours sur le châtiment divin. La guerre était le châtiment divin et vous, par culpabilité, vous êtes devenue terrifiée et anorexique.
Oui, absolument, absolument. C'était une période difficile. J'avais 11, 12 ans, âge difficile aussi. Et la culpabilité de nos parents, de nous tous, nos parents qui n'avaient pas eu assez d'enfants. Hein. C'était ça le discours, c'est notre faute, c'est la faute de vos parents. Comment mes pauvres parents, que j'adorais, j'avais une enfance formidable, mes parents délicieux, comment est-ce qu'ils pouvaient être coupables comme ça et moi, du coup, je l'étais. Et puis alors, il y avait le gros problème, évidemment, du ravitaillement, qui, en 40, a été absolument chaotique. Hein. Et du coup, manger, c'était un acte, il fallait se procurer de la nourriture. Et quand on en avait, ce qui était notre cas, on avait de la famille à la campagne, on n'a pas été malheureux du tout. Mais j'avais le sentiment d'être privilégié. Hein. Et être privilégié en période de guerre, il n'y a rien de tel pour vous sentir coupable. Donc, tout ça était très compliqué. Et du coup, je ne voulais plus manger. Ce qui est complètement idiot, mais enfin, c'est comme ça.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Michel Perrault, on évoque avec vous le documentaire qui vous est consacré dans l'intimité des chambres de Terry Vendamish. On parlait il y a quelques instants de la culpabilité distillée par les religieuses pendant la guerre, qui a cependant eu aussi un effet bienfaisant, c'est que vous vous êtes réfugié dans la littérature.
Oui, parce que comme j'ai été malade à la suite de tout ça, il fallait que j'avais une colonne vertébrale complètement dingue, scoliose, tout ça. Donc, il fallait que je passe des heures sur une planche. Alors, mes parents, charmants, m'avaient installé un pupitre pour lire toute la journée. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup lu. J'ai lu notamment la littérature russe, hein. Guerre et paix. Ça a été absolument formidable. Et la littérature américaine, notamment Faulkner. Pourquoi ? Parce que mon père était un grand lecteur de ces auteurs, et donc je prenais les livres de mon père, je les lisais dans la journée. Par exemple, un auteur américain, Faulkner, c'était très, très austère, mais Sinclair Lewis, par exemple.
Anne Vickers.
C'était épatant, parce que ça, c'était un peu la peinture de la société américaine des années 1930. Et mon père me disait... Anne Vickers, c'est un modèle pour toi. Pourquoi disait ça? Parce que Anne Vickers, dans le roman, fait sa médecine dans l'Amérique des années 30. Elle tombe amoureuse d'un homme qui fait lui aussi sa médecine. Tout paraît très bien. Mais cet homme lui dit, on va se marier, vous allez arrêter votre métier. Et elle refuse. Elle dit, pas question, moi je veux continuer mon métier de médecin. Et du coup, ils se séparent. Il n'admet pas cela. Et mon père me disait, voilà, il faut que tu sois comme Anne Vickers.
Votre père
indépendante.
Vous a aussi dit de ne pas trop vous presser pour vous marier, ce que vous n'avez pas forcément suivi comme conseil. Oui. Mais ce qui est amusant, c'est que vous avez appris tout ce qui touchait au flirt auprès des petites paysannes du Poitou avec lesquelles vous gardiez les vaches l'été.
Ah oui, oui, oui. Mon contour de Poitou, c'était le pays de mon arrière-grand-père. Et c'était une distraction pour moi, hein, d'aller avec elle. J'avais une grande amie qui s'appelait Dédé, et nous allions garder les vaches. On était plusieurs, comme ça. Et alors, elle se racontait tout ce que les garçons leur faisaient. J'en ai vraiment appris beaucoup à ce moment-là.
Et c'était aussi une façon de savoir ce qui était agréable et ce qui ne l'était pas.
Oui, un peu. Oui, oui, absolument. Parce qu'elles avaient un jugement très balancé. Il y avait des choses qui visiblement leur plaisaient, d'autres qu'elles redoutaient. Il ne faut pas oublier que ce qu'elles redoutaient par-dessus tout, c'est d'avoir un enfant avant le mariage. Hein, faut pas oublier que cette époque est sans contraception, etc. Et ça, elle, évidemment, c'est moi qui en parle de cette manière-là. Mais ça se comprenait très très bien. Très très bien. Les filles enceintes, il y en avait pas mal. Et mon arrière-grand-père, qui regardait les jeunes filles aller à la messe le dimanche de sa vitre, disait « Oh, la petite Proust, elle est ben grosse !» Proust est celui qui a poussé le plus loin la quête de la muse de la nuit. Habité par la crainte du bruit, il avait fait recouvrir les murs de sa chambre de liège. Le retrait nocturne était pour lui la condition préalable à un retour sur soi. Colette, à la fin de sa vie, ne quittait plus ce qu'elle appelait son radeau-lit. Calée sur ses oreillers, elle écrivait sur une table adaptée que lui avait offert la princesse de Polignac. Simone de Beauvoir déserte le brouhaha du café de Flore. Elle préfère désormais écrire dans le studio qu'elle achète en 1955 et qu'elle occupera jusqu'à sa mort. Dans ce studio encombré de souvenirs, elle était heureuse sur son divan jaune.
On entend de nouveau un extrait du documentaire qui vous est consacré, Michel Perrault. On apprend dedans qu'une fois que tout le monde était couché, Georges Sand s'isolait pour écrire de 11h du soir à 4h du matin. Et vous, comment est-ce que vous écrivez ?
Plutôt dans la journée. C'est quand même plus conforme à une vie de famille, à une vie sociale, à un métier. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai pas fait d'excentricité du tout.
Vous aviez eu très tôt une conscience sociale développée, l'injustice vous révoltait, vous avez été bouleversé par les femmes tondues à la Libération. Et à la Sorbonne, bien que vous ayez d'abord souhaité faire un mémoire sur le féminisme, ce n'est pas à cette histoire que vous êtes intéressé, puisque Ernest Labrousse vous en a dissuadé et vous a proposé un sujet sur les grèves sous la Monarchie de Juillet, mais qui vous a beaucoup plu.
Oui, qui m'a beaucoup plu. En vérité, c'est ce que j'avais envie de faire. Le social me paraissait très important et les grèves étaient un moyen d'entendre la voix des ouvriers du 19e, par exemple, qu'on n'entendait pas du tout. C'était la grève, c'est un moyen de pression, mais c'est aussi un mode d'expression. Et donc, ça me plaisait beaucoup. J'ai travaillé là-dessus pour ce qu'on appelait alors la maîtrise et plus tard, dans ma thèse, j'ai aussi travaillé là-dessus.
Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous, écoutez-moi ! Si nous entrons, ça veut dire que nous acceptons les nouvelles conditions qu'ils tentent de nous imposer.
D'où tu sors ça ?
Je le sais. Il y a des choses que l'on sait sans les avoir apprises.
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?
Je veux qu'on se plante là et qu'on n'en bouge pas tant qu'on n'aura pas satisfaction. Si nous nous soumettons au patron, ça veut dire que nous renonçons à tout ce que nous sommes. Des ouvrières, des femmes, des mères de famille, des citoyennes. C'est l'enfer qui nous attend.
Lucie a raison. Il ne faut pas entrer.
Michel Perrault, c'est justement en vous intéressant aux grèves que vous découvrez une certaine Lucie Beau, qui est le sujet de votre livre « Mélancolie ouvrière » dont on entend l'adaptation par Gérard Mordilla. Est-ce que vous pouvez dire un mot de cette femme qui faisait grève, ce qui était rare justement pour une femme, qui écrivait et qui était réprouvée par ses parents ?
C'est parce qu'elle a écrit que je l'ai rencontrée, parce qu'elle avait laissé une petite autobiographie, franchement c'est pas très long, une vingtaine de pages, mais elle dit « je ». Et elle parle d'elle comme un sujet qui travaille, etc. Et on m'avait sollicité pour écrire sur une femme anonyme, inconnue. J'avais eu du mal, mais j'avais proposé quand même cette femme-là. Et du coup, j'ai fait des recherches que je ne peux pas raconter ici, mais qui m'ont permis d'étoffer un petit peu sa vie. Parce que vous savez, en historien, il y a toujours des sources. Et si on les cherche, on finit par les trouver. D'autant plus qu'elle habitait Vizil, et qu'à Vizil, j'ai retrouvé des descendants, des gens. Enfin, bon, toute une petite histoire qui était formidable à faire. Et pas énormément de choses, mais quand même, une femme qui avait épousé un garde champêtre, qui s'est vraiment engagée quand elle est devenue veuve, c'est un petit peu triste de dire ça, qui avait deux filles, et les filles n'approuvaient pas du tout l'engagement de la mère, pas du tout. Si bien qu'elle s'est trouvée assez solitaire, un peu mélancolique, en effet. Elle a fait une tentative de suicide, et ensuite, on la perd, elle meurt en 1913, enfin peu importe. Mais c'est un beau personnage de femme, voilà.
Vous avez souligné le fait qu'elle utilise le « je », ce qui n'était pas fréquent. Et vous, pendant longtemps, vous n'avez pas souhaité parler de vous. Vous dites même que peut-être avez-vous été historienne pour ne pas parler de vous. Mais que finalement, vous vous êtes réapproprié ce sujet et ce « je » par « mon histoire des femmes ».
Oui, deux remarques à ce sujet. Le « je », c'était s'enfoncer dans la personnalité alors que le monde nous attendait. Voilà, hein, l'idée de l'importance du monde, de l'actualité. Il faut bien voir que c'est les années d'après la Deuxième Guerre. Hein. Tout ça est très bruissant. Et on a le monde ouvrier est très important. Industrialisation, classe ouvrière, c'est fondamental. Donc, c'est la figure de l'opprimé. Et aller de ce côté-là était en effet fondamental. D'où d'ailleurs l'accueil que j'ai, la brousse, enfin le lien que j'ai eu avec la brousse à ce moment-là.
Trouvez-vous qu'il y a trop de « je » aujourd'hui ?
Alors, je ne dirais pas ça, parce que la découverte du « je », c'est une découverte fondamentale. Et je l'ai faite, cette découverte. Hein. Simplement, j'y ai mis le temps, et je l'ai découvert, vous l'avez dit tout à l'heure, un peu par le mouvement des femmes. Hein. Retrouver les femmes, ça a été d'une certaine manière retrouver ma mère. Parce que mon père avait beaucoup compté, et c'était mon modèle. Mais me poser la question de ma mère et de sa vie, ça a été très important. Et à ce moment-là, c'est comme un horizon qui s'ouvrait pour moi. Et au fond, qu'est-ce que je suis comme femme ? Qu'est-ce que ça a été, mon histoire, en tant que femme, et pas seulement en tant que citoyenne, républicaine, femme engagée, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Autrement dit, c'était comme si un monde nouveau m'était ainsi apporté.
Et en parlant de monde nouveau...
J'ai peur.
De quoi ?
C'est difficile d'être heureux. Embrasse-moi bien fort.
Nous sommes de la même race tous les deux.
Vous savez mentir, pas moi. J'aime trop m'amuser.
Jolie comme tu es, c'est normal.
Je sais pas. C'est toujours comme si j'allais mourir le lendemain. Il y a quelque chose de trop fort en moi qui me pousse à faire des bêtises.
Michel Perrault, après l'agrégation, vous devenez professeur au lycée de jeunes filles de Caen, ville démolie à 80%. Nous sommes en 1951, on ne peut pas se loger. Vous dormez dans un dortoir d'étudiants, dans les combles de l'abbaye aux hommes. C'est drôle, l'abbaye aux hommes. Et au lycée, vous vous liez d'amitié avec la future historienne Mona Ozouf. Et avec une autre amie, vous allez voir toutes les trois « Et Dieu créa la femme » de Roger Vadim avec Brigitte Bardot. Et ce qui est amusant, c'est que ce film a été libérateur pour vous, mais il a su susciter, contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup plus d'enthousiasme chez les femmes que chez les hommes.
Ah oui, absolument, c'était drôle, et ça reste pour nous un souvenir qu'on se rappelle souvent. Hein. C'est qu'on était complètement déchaînés, hein. On trouvait qu'elle était belle, qu'elle était insolente, qu'elle envoyait promener les hommes, enfin c'était une belle figure de femme, et il faut dire aussi qu'il changeait des héroïnes cinématographiques, qui étaient souvent très convenues, très, très embêtantes, etc. Elle, la séduction, oui, mais comme elle le voulait, absolument. Et nos compagnons, nos maris, etc., étaient un peu sidérés, quand même. Pourquoi est-ce qu'elles sont séduites comme ça par Brigitte Bardot ? Je ne comprenais pas trop.
Simone de Beauvoir aussi a été séduite, oui. Elle a écrit sur elle.
Oui, tout à fait.
Il y a plus d'un an, Maurice Audin, professeur de mathématiques engagé aux côtés du FLN, était arrêté à Alger par les parachutistes de Massu. Il était torturé à mort. Depuis, nulle trace de son corps, de son cadavre. Nous poursuivrons jusqu'au bout le combat pour la vérité sur cet assassinat. Voilà pourquoi.
Nous lutterons jusqu'à la mort du colonialisme et de ses deux inévitables sous-produits, le fascisme et la torture.
C'est Denis Podalydès qu'on entend interpréter Jean-Paul Sartre lors de sa participation au comité Audin le 30 mai 58 au Lutetia, une fiction de 2006 pour France 2. Le comité Audin auquel vous participiez avec votre mari, Michel Perrault, Mona Ozouf aussi, c'était une époque où vous étiez très politisée, le communisme était à l'époque très séduisant, et puis vous avez découvert deux choses, et il y a eu deux ruptures idéologiques, une avec l'Église et une avec le Parti communiste, je vous laisse raconter.
avec l'Église parce que elle avait condamné les prêtres ouvriers. Et pour moi, ça a été quelque chose d'incompréhensible. Et c'est venu peut-être à la suite d'une évolution beaucoup plus lente. Avec le Parti communiste, bien sûr, parce que nous avons découvert ce qu'était l'Union soviétique. Hein. Et par conséquent, nos illusions, on a découvert nos illusions. Et du coup, on a rompu aussi avec là. Mais je voudrais surtout revenir sur la guerre d'Algérie, parce que on pourrait dire que ça a été d'une certaine manière notre guerre, si vous voyez ce que je veux dire, notre engagement. C'était intolérable. Et la torture a été évoquée à l'instant. C'était absolument insupportable. Donc, nous nous sommes engagés autant qu'on a pu, par tous les moyens, les manifs, bien entendu, quelques valises aussi, qu'on a portées pour le FLN, etc. On a été très engagés, là.
Mais à ce moment-là, vous vivez donc un désenchantement spirituel et politique. Comment l'avez-vous vécu? Vous n'étiez pas découragé?
Si, mais d'un autre côté, il y avait autre chose à inventer. Voilà. Au fond, 68 est venu de cela. S'il y a eu 68 mouvements extraordinaires auxquels j'ai eu la chance de participer...
À la Sorbonne.
À la Sorbonne, oui. C'était parce que ces illusions, justement, on était en train de les dissiper et on pouvait imaginer autre chose quand même. Voilà. Autrement dit, oui, c'est des ruptures difficiles, mais... On est jeune à cette époque-là encore, et par conséquent, on peut inventer des solutions nouvelles.
Sur le toit de l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue, mon ami, quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi, tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits, que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient, des chansons que je sais, que je traduis pour toi, les voici, les voilà. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Pour la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il a vu ça, lui. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subito tous en chœur. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, mais le soleil attend. Ici, bas, souvent, chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, hein, la lune est là, hein, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, hein, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil attend. Papa dit qu'il a vu sa vie. Philosophe, écoutez, cette phrase est pour vous, le bonheur est un astre volage. Qui s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous, il s'efface, il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là, tout près de nous. Il voyage, il voyage, il voyage. Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est un peu partout. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici, pas souvent, chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, 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 mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il l'a vu sa nuit. Papa dit qu'il l'a vu sa nuit.
J'adore toujours cette chanson.
Alors Michel Perrault, vous avez choisi pour l'émission Charles Trenet, Le Soleil à rendez-vous avec la Lune. Vous l'aviez déjà choisi dans la matinale, donc vous êtes une vraie groupie.
Oui, tout à fait. Mais quand on l'entend, on comprend.
Oui, bien sûr.
C'est drôle,
oui.
C'est poétique, et le rythme est formidable.
Je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs, et vous avez choisi la peinture hollandaise dans les musées de La Haye et d'Amsterdam.
Une fascination, une découverte pour moi. Quand j'y suis allé avec Jean-Claude, mon mari compagnon, très tôt quand même. Et c'était tellement beau. Amsterdam, magnifique, où il y avait très peu de monde encore à cette époque. Maintenant, c'est différent. Et les musées, la richesse, la beauté des musées hollandais, oui, ça a été une révélation. Magnifique.
On évoque la peinture classique et ça me fait penser aux polémiques contemporaines qu'il y a parfois au sujet de certaines œuvres, des films, des tableaux, des romans. Vous êtes contre la censure, vous êtes pour remettre en contexte les œuvres, oui, sans les censurer. Est-ce qu'il y a déjà une œuvre qui vous a choqué ?
Peut-être des textes, mais plus pour des raisons politiques que morales.
Pas de fiction ?
Non, je pense à certaines œuvres de Céline qui m'ont choqué beaucoup, alors que j'ai aimé aussi des romans de Céline. Voyage au bout de la nuit, c'est quand même un grand roman, grand roman. Mais, vous voyez, par ailleurs, nous ne voulions pas exercer aucune censure morale. Et on était même, je pense, assez libertaires de ce point de vue-là. Peut-être d'ailleurs, trop. Je veux dire à ça que la liberté n'a pas toujours, par exemple, pour les femmes ou pour les adolescents, était toujours si bénéfique. Et on le découvre maintenant.
Les femmes avec nous, les femmes avec nous, les femmes dans la rue, pas dans la cuisine, les femmes dans la rue, pas dans la cuisine. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Devant nous femmes esclaves, et puis nous sommes nos entraves. Debout, debout, debout.
Cela se passait le dimanche de la fête des mères à Paris, au rond-point des Champs-Élysées. C'était la manifestation du MLF, le mouvement de libération des femmes. Elles étaient habillées, par manière de dérision, en petites filles, chaussettes courtes, rubans dans les cheveux. Déjà auparavant, elles avaient organisé d'autres rassemblements, entre autres à la Mutualité, des journées de dénonciation des crimes contre les femmes. Bref, leur mouvement fait parler de lui. Il provoque parfois le scandale, parfois la moquerie, parfois l'enthousiasme, parfois une approbation nuancée de réserve.
Michel Perrot, c'est quand vous avez découvert le MLF et leur première manifestation qui eut lieu en 71, là on entend une archive de 72, que vous avez découvert les femmes comme actrices. Oui. Et votre rapport, oui, a changé à elles.
Oui, absolument, absolument. C'était quand même... Oui, 68 avait un peu oublié les femmes. Enfin, disons à ça, c'était pas une préoccupation dominante du tout. Mais les femmes étaient là. Elles étaient beaucoup plus nombreuses, il y avait quand même de plus en plus d'étudiantes, et ça avait été quand même une occasion de réfléchir à beaucoup de choses. Donc, après 68, il y a ce mouvement qui dit, en somme, « et nous ». Voilà, « et nous ». Et d'ailleurs, on l'entend très bien dans les extraits que vous venez de donner. Et bien entendu, il y avait le mouvement aux États-Unis qui était très très important. Et il se trouve qu'à Jussieu, où j'étais professeur, peu importe, j'étais en rapport avec tous ces milieux-là. Françoise Bache, par exemple, qui enseignait dans une unité anglo-américaine, on voyait toutes les amies américaines qui arrivaient, c'était absolument passionnant.
Et c'est à Jussieu qu'avec d'autres historiennes en 73, vous avez intitulé un cours « Les femmes ont-elles une histoire ?» et il a développé de nombreux nouveaux champs de recherche. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu des détracteurs et des doutes ?
Des détracteurs, peut-être, mais je ne les ai pas connus. Autour de moi, ils étaient plutôt un petit peu étonnés, peut-être, mais plutôt solidaires. Il n'y avait pas de critiques particulières. Mais ça a eu beaucoup de succès parmi les étudiantes, et même aussi parmi les étudiants. Donc, le cours, ça venait, en 73, du fait qu'il y avait un contraste jusqu'à la boîterie, en quelque sorte, entre mes engagements et le fait qu'en histoire, je ne disais rien sur les femmes. C'est ça qui m'a été mon chemin de Damas, qu'on pourrait dire, et qui fait que j'ai, avec Fabienne Bock et Pauline Schmitt, nous avons, je leur ai dit, voilà, on devrait faire un cours sur les femmes. On a fait ça.
L'idée qu'il faille absolument donner aux gens qui exercent le pouvoir un instrument, en quelque sorte, optique, pour que ce sur quoi ils exercent leur pouvoir, et en même temps les effets de ce pouvoir, leur soient visibles, ça, c'est une préoccupation fondamentale. Doter le pouvoir d'un regard. Donner par conséquent, imposer à ce sur quoi s'exerce le pouvoir, ou ce sur qui s'exerce le pouvoir, donner une visibilité intégrale, exhaustive. Ça, je crois que c'est un des grands rêves de la pensée politique au XVIIIe siècle, et qui se trouve compensée et relayée par l'idée, alors elle, plus esthétique, plus morale aussi, bien que profondément politique, l'idée que le bonheur social, ça serait une visibilité réciproque totale. Que chacun puisse savoir ce qui se passe dans la tête et dans le cœur. Alors vous avez cette idée d'une communauté de visibilité, et vous avez cette autre idée d'un appareil technique permettant aux uns de voir les autres.
C'est Michel Foucault qu'on entend sur France Culture en mai 77 dans une émission dans laquelle on vous retrouve aussi, Michel Perrault. Vous êtes lié d'amitié avec lui et vous vous êtes, sans doute, l'intérêt fut-il enrichi par cette amitié, intéressé aux prisons.
Oui, je trouve le texte sur le regard magnifique, enfin, qui résume bien les préoccupations de Michel Foucault. Oui, la prison, ça comptait beaucoup pour lui. Il avait fondé un groupe d'information prison, le GIP, et voilà. Et moi, je m'y suis intéressé beaucoup aussi. Et il n'y avait rien du point de vue recherche là-dessus. Donc, j'ai donné beaucoup de sujets, beaucoup de thèses, voilà. Et par la suite, après la mort de Foucault est mort en 84, Robert Badinter, qui, président du Conseil constitutionnel, souhaitait avoir une vie de recherche et disait que ça lui manquait. Avec lui, enfin, il m'a demandé d'organiser un séminaire que nous avons assuré ensemble pendant 5 ans et qui était une réflexion sur la prison républicaine. Parce que Badinter partageait la critique de Foucault sur la prison, mais d'un autre côté, lui, il est un homme politique, il est un homme d'action. Donc son problème, c'était comment faire une prison démocratique. Voilà. Et il a agi beaucoup dans ce domaine, réfléchi aussi beaucoup, et publié un livre qui s'appelle « La prison républicaine ».
Michel Perrault, on arrive à la fin de cette émission. Alors, il paraît qu'il ne faut pas donner l'âge des femmes, mais vous ne cachez pas le vôtre, et je le trouve très encourageant. Vous me permettez de le donner ?
Oui, bien aussi.
Eh bien, dans 3 ans, vous aurez 100 ans. Et j'aurais aimé savoir quelle période de l'histoire vous avez préféré vivre et si vous pensez que les inquiétudes qui nous préoccupent le plus aujourd'hui sont inédites ou que l'histoire est cyclique.
J'ai beaucoup aimé vivre après la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est le moment d'amour,
de liesse,
la profession, les projets. Enfin, c'est une période que j'ai énormément aimée, beaucoup. Bon, je pourrais en dire autant de mon enfance. J'ai eu une enfance enchantée aussi. Finalement, pas mal de choses. Ça, c'est la réponse à une de vos questions. Et puis,
pensez-vous que les inquiétudes qui nous préoccupent le plus aujourd'hui sont inédites ou que l'histoire est cyclique? En d'autres termes, avons-nous des raisons d'espérer?
C'est toujours différent. L'histoire ne se répète pas, mais les expériences peuvent nous aider à comprendre aujourd'hui. Par exemple, à l'heure actuelle, la montée de la perspective de guerre, ça c'est quelque chose que nous avons, que moi j'ai vécu, enfant naturellement, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça peut donner des instruments pour réfléchir aujourd'hui. Et le problème est au fond très simple, à la fois être réaliste, ne pas se dissimuler les choses, et en même temps ne pas céder non plus au nihilisme, voilà. Du point de vue de la guerre, ne pas non plus se laisser happer par la guerre.
Donc nous ne sommes pas à l'abri de bonnes surprises dans le futur.
L'histoire, c'est nous qui la faisons. Par conséquent, une conscience plus aiguë, l'importance extrême de la jeunesse aujourd'hui, l'importance de voir, de dire, de discuter, de ne rien se dissimuler, d'être à la fois critique et engagé, je crois que c'est quelque chose de très important.
Est-ce que vous auriez un livre à recommander pour s'entraîner à produire de la pensée, à penser par soi-même? Un outil de pensée?
Surveiller et punir de Michel Foucault, par exemple.
Parfaite réponse.
Si l'on veut.
Merci beaucoup, Michel Perrault.
Merci beaucoup à vous.
S'engager en historienne est paru aux éditions du CNRS. Le documentaire Michel Perrault dans l'intimité des chambres de Terry Vendamiche est disponible sur francetv.fr jusqu'au 7 septembre. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Morfouas et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Jérôme Ragano.